bonjour à tous. Donc, du coup, le sujet, enfin le titre de l'intervention, c'est trois approches pour booster ses emailings. Si je devais couvrir toutes les clés pour optimiser ses emailings, il faudrait bien plus que 45 minutes, il faudrait peut-être une bonne journée. Et deux jours si on veut en plus faire des ateliers pratiques. Donc là, je me suis concentré sur une partie, finalement, une partie révision. Quels sont les prérequis pour que de toute façon vos emailings marchent? Donc si vous n'avez déjà pas atteint ces prérequis, c'est normal que ça ne marche pas. Et puis je balaye trois orientations de l'emailing avec des exemples concrets. Donc forcément, je vais dire des choses que vous savez déjà pour partie. Mais je fais le pari qu'il y a quand même des éléments nouveaux qui vont apparaître, ou je vais mettre en avant des choses que vous saviez mais que vous avez oublié de mettre en pratique. Donc c'est peut-être l'occasion de s'y mettre. Du coup, je vais passer rapidement parce que Elodie m'a déjà très bien décrit. Ça fait 20 ans que je travaille dans le web et dans l'emailing. Ça fait 3 ans que je travaille sur le sujet RGPD. Alors j'ai mis RGPD agile parce que l'approche RGPD qu'on voit classiquement, c'est très lourd, c'est très fastidieux et ça ne fait pas envie. Donc j'ai changé l'approche pour que en 2 jours, vous ayez au moins 50% des risques RGPD qui sont réglés. Et vous savez exactement quoi faire pour atteindre le 90 ou le 100%. Et vous pouvez le faire au fil de l'eau dans les 6 à 12 mois qui suivent, sans effort supplémentaire. C'est-à-dire à chaque fois que vous avez une procédure ou un document à mettre à jour, vous savez ce qu'il faut changer pour le faire évoluer. C'est beaucoup moins frustrant que la méthodologie habituelle. Et voilà, il y a une petite mention sur le fait d'être agréé Smart 2 transformation numérique. Il n'y a que 8 entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes qui sont labellisées. Et c'est un dispositif qui permet d'être financé à hauteur de 70% sur 4 jours de conseil et d'accompagnement, à condition que le sujet de l'intervention soit la transformation numérique de l'entreprise. Le fait de passer, de ne pas avoir de site e-commerce à avoir un site e-commerce est un exemple de transformation numérique. Je passe rapidement. Si on va sur le cœur de la conférence, c'est quels sont les fondamentaux, c'est-à-dire si vous ne les respectez pas, ce n'est pas la peine de continuer. De toute façon, c'est normal que vos emailings ne marchent pas. Il y a un certain nombre de prérequis techniques à respecter. Il y en a un premier, on dit routage de mail avec feedback loop, c'est-à-dire que lorsque votre mail il est mis en spam par un internaute, vous êtes informé du fait qu'il était mis en spam. Si vous n'avez pas cette boucle de retour entre le fournisseur de la solution email et vous, vos mails vont progressivement se retrouver dégradés en termes de délivrabilité, c'est-à-dire de capacité à arriver dans la boîte de réception. Et petit à petit, ils seront de moins en moins vus par les destinataires. Je vais revenir là-dessus. Si vous devez le faire vous à la main, c'est très compliqué parce qu'il faut nouer un contrat avec Yahoo, avec Microsoft pour ouvrir cette boucle de retour. La bonne nouvelle, c'est qu'à partir du moment où vous utilisez un routeur de mail courant, tel que les SendinGlue, MailJet, MailChimp, ils intègrent cette feedback loop. Donc c'est intégré. Si vous faites de l'envoi de mail, le point, c'est si vous faites de l'envoi de mail depuis votre compte mail Orange, vous n'avez forcément pas cette feedback loop et c'est normal que très rapidement la performance de vos emailings elle baisse parce que vous n'avez pas ce retour indiquant que vous avez des mises en spam. Automatiquement, les routeurs de mail, quand ils ont le retour que tel internaute a dit c'est du spam, ils grillent l'adresse et ils empêchent d'envoyer de nouveau à ce destinataire, ce qui fait que la réputation de votre adresse d'expédition, elle n'est pas pénalisée. Deuxième chose qui là du coup est complètement de votre sort, c'est de bien configurer de mon part, les champs SPF et DKIM. SPF, ça permet de dire, quand j'envoie, si par exemple j'envoie un mailing depuis communication@itis-commerce.com, si je fais ça, n'importe qui peut le faire. Donc le SPF, le champ SPF permet d'authentifier, de dire cette adresse IP, cet expéditeur est bien autorisé à envoyer pour le compte de communication@itis-commerce.com. Si vous ne le faites pas, le récepteur, le serveur de réception ne saura pas dire si c'est vraiment Itis Commerce qui envoie les emails et forcément il va avoir des doutes et quand il a des doutes, il le met en spam et c'est fini, le mail n'est pas arrivé. DKIM, ça ne fait pas la même chose, mais c'est simplement pour vérifier que les éléments clés du mail sont bien conformes. Et puis, envoyer des mails, c'est bien, mais si vous ne connaissez pas sa performance, ça sert un petit peu à rien. Donc c'est évident, il est évident que vous avez intérêt à avoir le moyen de suivre les statistiques, la performance de votre emailing, aussi bien en termes de taux d'ouverture que de taux de clic. De nouveau, si vous utilisez une plateforme de routage, et aujourd'hui c'est largement accessible, ça commence à, je ne suis pas sur les offres gratuites, mais on est à entre moins d'une dizaine d'euros par mois, donc normalement tout le monde, à partir du moment où on a une activité commerciale, tout le monde peut se le permettre, il intègre du suivi statistique et d'ouverture et de clic. Et même si vous n'aviez pas ça, vous pouvez, en utilisant Google Analytics, vous pouvez au moins suivre les visites que ça génère sur votre site. Ça, c'est vraiment les prérequis techniques. Et derrière, il y a un autre gros sujet, mais je ne l'aborderai évidemment pas aujourd'hui parce que c'est un sujet d'une plus d'une journée, c'est comment est-ce que j'optimise tout le contenu de l'email et comment est-ce que j'optimise l'enveloppe du mail. Ce que j'appelle l'enveloppe, c'est tout ce qu'il y a avant qu'on ait ouvert le mail, c'est-à-dire l'expéditeur, le sujet, l'objet du mail et ces choses-là. Tant que vous n'avez pas coché toutes ces cases-là, enfin au moins les prérequis techniques, et vous n'avez pas commencé à vérifier que votre enveloppe et votre contenu ne sont pas optimisés, tout le reste, toutes les optimisations que vous allez faire derrière, ça ne sert quasiment à rien parce que vous avez perdu 80% du potentiel de votre envoi. Donc si vous envoyez à 100 personnes, ça veut dire qu'il n'y en a peut-être que 20 qui vont le recevoir. Et le résultat, il est très vite très décevant. Pourquoi est-ce qu'il est décevant? Parce que l'acheminement d'un email, c'est un vrai parcours du combattant. Vous partez avec 100 mails que vous envoyez. Il y en a peut-être, en moyenne, il y en a 95 qui vont arriver jusqu'au serveur mail du destinataire. Il y en a 5% qui vont se perdre dans la nature. Ils vont se perdre parce que la boîte de réception est pleine, parce que il y a eu des doutes sur votre clé d'équilibre. Et autre chose. Donc ils vont être soit refusés, soit déjà mis en spam. Donc, la première victoire, c'est d'arriver, d'avoir le volume, la quantité qui arrive jusqu'au serveur, qui soit le plus élevé possible. 95%, c'est bien. La deuxième, c'est d'arriver dans la boîte de réception du destinataire. C'est pas parce qu'il est arrivé sur le serveur, qu'il est arrivé par exemple chez Gmail, pour autant il est peut-être allé dans le dossier spam de Gmail. Là, si tout va bien, vous n'êtes plus qu'à 70%. Donc vous en avez perdu 30 mails sur 100 qui ne sont pas arrivés. Qui ne sont pas vus par le destinataire. Étape suivante, victoire suivante, c'est que le mail soit ouvert. Donc c'est 25% de mon volume de départ, mais en fait c'est même pas, c'est 25% de mes 70%. Donc plus j'augmente mon nombre de mails qui arrivent dans la boîte de réception, là on comprend l'intérêt de l'importance d'avoir validé les prérequis techniques, et plus j'aurai de mails qui seront ouverts, parce que c'est 25% des mails qui sont arrivés dans la boîte de réception. C'est bien, il est vu, mais pour le moment, on n'a toujours rien gagné, aucun bénéfice, tant que l'internaute il n'a pas cliqué sur le mail et qu'il n'est pas allé sur la page de destination qui correspond au clic. 5% de ceux qui ont ouvert, ou 5% pardon, du volume total, mais des 70%, donc plus il y en a dans la boîte de réception, et plus j'ai de retour, de transformation, de conversion derrière. Là, dans le mail, le sujet c'est le mail, je m'arrête au clic, mais il y a évidemment tout le sujet de qu'est-ce qu'il y a sur la page de destination, qu'est-ce qui va faire qu'il va faire quelque chose l'internaute derrière. Parce que si le but c'est de l'inviter à s'inscrire à un événement, par exemple le petit digital, il a cliqué, il n'est pas encore inscrit. Donc est-ce que la page de destination, elle est bien conçue pour faciliter son inscription à l'événement? Une fois qu'on est arrivé là, on a fini pour l'emailing et ça commence sur la page de destination. Je balaye trois approches, c'est une forme de révision ou de théorie, et pour bien faire la différence, parce que finalement, suivant l'approche qu'on a, on n'a pas du tout le même contenu et on n'a pas les mêmes objectifs. La première approche, c'est l'approche j'envoie une newsletter. Une newsletter, c'est, dans ma définition, c'est un contenu qui est utile au destinataire. Et donc, s'il est utile, il n'est probablement pas promotionnel. Il est régulier. Parce que si vous n'installez pas de la régularité, le destinataire va pas prendre l'habitude de la lire, il ne va pas prendre l'habitude de l'attendre. La meilleure victoire sur une newsletter, c'est quand le destinataire il vous appelle en vous disant « C'est bizarre, Bernard, je reçois ta newsletter tous les jeudis, le premier jeudi du mois, et là, ce mois-ci, je ne l'ai pas reçu, est-ce qu'il y a un problème ?» Quand on en est là, c'est bien. Ça veut dire qu'on a créé une vraie attente en face. Donc je dis, c'est pas de la publicité, ça doit être régulier, donc forcément c'est un investissement qui est important et c'est du long terme. La newsletter de néodiffusion, le but, c'est pas de. c'est de, d'informer, c'est de garder un contact avec la base de contact, de destinataire, et c'est clairement pas de faire des ventes. C'est simplement, ils ont un mail, alors maintenant tous les trimestres, et ils savent que Nélifure existe toujours, ils savent un peu plus, ils savent un peu plus sur, le, sur l'activité, parce qu'à chaque fois, il y a un dossier technique qui est différent, qui donne des informations sur d'autres sujets, donc plus au fil du temps, ils ont une idée plus claire des services qu'on propose. Et l'attente, enfin mon attente, c'est simplement que le jour où ils ont un besoin qui correspond à ce qu'ils ont lu dans la newsletter, ils vont appeler. Mais des fois, c'est 2 mois après, ça peut être 2 ans après. Donc c'est un investissement lourd et long terme. Des exemples de newsletters. Donc j'ai sollicité le personnel des scolaires pour me partager les newsletters qu'ils ont reçus et qu'ils ont appréciés. Le premier exemple, c'est celle qui est envoyée par Airbnb aux propriétaires de logements qui le mettent à disposition. Donc, première chose, on voit qu'elle est relativement longue. Deuxième chose, ils vendent rien. Par contre, ils apportent du contenu, de l'aide, et ils vont inviter à cliquer. C'est une notion très importante, c'est comment est-ce que j'incite à l'action. Premier sujet, c'est vous souhaitez plus de flexibilité pour fixer vos prix. En gros, ils annoncent qu'ils ont créé des nouvelles options qui permettent d'ajuster les prix. Mais plutôt de dire qu'il y a des nouvelles options pour ajuster les prix, c'est orienté sur le bénéfice du destinataire. Plus de flexibilité. Un gros bouton qui est rouge, on remarque qu'il n'y en a qu'un seul qui est rouge et visible, donc c'est l'action principale qui est attendue de cette newsletter. Et après, ça continue. Sujet suivant, c'est n'oubliez pas le papier toilette. Donc on voit qu'on est sur du ton humoristique et décalé pour informer qu'ils ont modifié les éléments qui doivent obligatoirement être mis à disposition dans le logement, avec un lien qui, cette fois, est discret, vérifier mon annonce, mais il y a toujours une invitation à l'action. D'autres sujets comme le bénévolat, comme les événements qui ont en ligne. Si vous n'avez toujours pas trouvé votre bonheur, la dernière interaction proposée, c'est donnez-nous votre avis. Donc là, même si le reste ne vous a pas intéressé, vous allez cliquer sur le petit bonhomme qui est le mauvais poil. Et donc du coup, ils ont quand même gagné parce que vous avez fait un clic. Donc ce genre de newsletter, on s'attend à ce que le taux d'ouverture soit largement au-dessus de 25% et que le taux de clic soit largement autour de 5%. Parce que tout est fait pour qu'il y ait au moins un clic sur la newsletter. Autre newsletter qui est envoyé par une structure qui fournit des services autour à destination des graphistes. Donc les destinataires sont des graphistes. Premier point, elle est très longue. Pourquoi elle est très longue? Une des raisons d'avoir une newsletter très longue, c'est que c'est quasiment impossible de ne pas avoir un sujet qui vous intéresse dans toute la longueur. Et du coup, quasi sûr que les personnes vont continuer à vouloir la recevoir. Deuxième chose intéressante dans cette newsletter, c'est je commence par offrir des éléments à télécharger gratuitement à destination qui intéresse la cible qui sont les graphistes. Des illustrations vectorielles, des effets rétro années 80. Qu'est-ce que j'obtiens en faisant ça? J'obtiens des clics sur mon mailing, je vais continuer à poursuivre l'interaction avec l'internaute, il est content, il a eu des choses gratuites, il se souvient de moi, et le mois prochain, il va continuer à ouvrir ma newsletter, voire même il va la recommander autour de lui. Mais ils ne font pas que de la philanthropie, donc dans le flux de la newsletter, on va retrouver des éléments qui, eux, sont des éléments premium, qui sont accessibles qu'à ceux qui payent un abonnement chez eux. Donc là, double effet, les membres, ils ont du contenu auquel ils ont accès, et les non-membres, ils sont un peu frustrés, et ils voient que s'ils étaient adhérents, ils auraient des choses en plus. Donc finalement, en proposant ça, ils ont quand même quelque chose à vendre, puisqu'ils vont essayer de convaincre des nouveaux abonnés. Et puis pour autant, il continue avec du contenu gratuit. Et puis, pour vraiment être sûr que vous trouviez votre bonheur, si vous avez envie de rien télécharger, ils finissent par quelques articles de blog qui sont pertinents sur le sujet de la communauté. Ça, c'est rentable si vous avez une grosse base d'emailing. Si vous faites ça pour 100 destinataires, c'est pas tout à fait vrai ce que je veux dire, si vos 100 destinataires, il suffit qu'il y en ait un pour amortir la newsletter, c'est rentable. Exemple, vous faites du rachat de crédit à destination des professionnels, Si une seule vente, enfin une seule conversion vous rapporte 5 000 ou 8 000 euros, peut-être que c'est rentable de quand même faire une newsletter. En général, c'est rentable qu'à partir d'un certain volume de destinataires. Dernier exemple sur les newsletters, juste pour dire qu'on peut quand même si j'ai dit que ce n'est pas promotionnel, on peut quand même mettre de la publicité. Là aussi, on retrouve le format très long. C'est une newsletter grand public à destination des personnes qui ont un appartement ou une maison et qui ont une sensibilité dans la rénovation et dans la décoration. Et on va trouver un sujet généraliste sur Brooklyn, c'est plus pour la curiosité. Un autre très pratique sur comment aménager son balcon. Et puis discrètement, sur la droite, une publicité pour un portail innovant qui a la particularité de ne pas avoir de pilier central. C'est de la publicité, il touche de l'argent à chaque fois qu'il y a un clic, mais c'est tellement discret et tellement dans la cible que finalement ça passe inaperçu et c'est inclus dans le flux. Donc une newsletter peut même être, si on a du volume, elle peut même être rentabilisée, amortie avec son contenu. Mais je passe rapidement parce qu'on est sur des sujets, enfin, normalement vous n'avez pas de base avec 100 000 ou 500 000 abonnés. J'en parle pour alerter sur le fait que souvent, on se lance dans le online, soit en e-commerce ou autre, en se disant « je veux mettre une newsletter, je veux diffuser une newsletter ». Quand vous dites ça, vous êtes en train de vous partir là-dessus, c'est-à-dire de la régularité, envoyer quelque chose tous les mois ou tous les trimestres, avoir un contenu qui soit de bonne qualité, des éléments visuels. Donc ça demande beaucoup d'engagement, beaucoup d'efforts et sur la durée. Donc peut-être que la newsletter, ce n'est pas la première chose à privilégier. Ou en tout cas, il faut bien réfléchir avant de se lancer là-dedans. L'approche 2, c'est le mailing dédié. À l'inverse de la newsletter, on ne communique pas tout va sur plein de sujets. Là, on va communiquer sur quelque chose de précis, avec clairement une incitation à passer à l'action, une incitation au clic. Donc c'est logiquement sur quelque chose, une opportunité à saisir, quelque chose qui va s'éteindre, qui va disparaître dans peu de temps. Le but, c'est que la personne ou le destinataire qui reçoit ce mail, il ne réfléchisse pas deux fois. Il voit le mail, il l'ouvre, il se dit « Ok, il faut que je clique maintenant ». Tout est à rédiger de façon à déclencher cette sensation. Donc là, on voit que graphiquement, ça n'a pas besoin d'être très recherché. Un autre exemple, alors ça passe pas très bien au visage projecteur, mais pour créer encore plus le degré d'urgence, ici, ils ont inséré un compte à rebours qui se décrémente en direct. C'est-à-dire que quand vous ouvrez le mail, et vous voyez le compteur qui décroît, et là l'urgence elle est très palpable, et si vous difficile de ne pas cliquer pour voir ce qu'on est en train de rater, même si finalement on n'est pas complètement dans la cible. Je passe rapidement, et c'est simplement pour montrer que les deux... Alors celle-là, elle est esthétiquement plus recherchée, et en plus il y a le côté compte à rebours, ça marche une fois de temps en temps, si vous envoyez tous vos mailings avec du compte à rebours, évidemment, votre base, elle va pas être dupe. Il y a des éléments, tout ce que vous pourrez trouver pour créer le degré d'urgence vont aller dans le sens de l'amélioration de la performance de votre envoi. Et c'est celle-là, pour montrer, c'est pas forcément graphique, voilà, un emailing dédié qui est juste en texte. Et en envoyant ça, Antoine BR a déclenché des ventes. Il a vendu des formations sur comment créer un blog. Donc, simplement parce que son texte, il explique ce qu'il offre. En dessous, quelque part, il a écrit, non, c'est pas sur celle-là, mais sur d'autres, régulièrement, il dit « Cette formation est disponible à tel prix pendant 48 heures. » Donc, juste pour dire, on n'est pas obligé de faire quelque chose de graphiquement très recherché pour avoir un mailing dédié qui soit efficace. Et le dernier, qui est systématiquement négligé. Donc, si vous avez un site e-commerce, je vous invite à passer quelques heures à revoir ça, parce que très certainement, vous perdez, vous avez un potentiel énorme que vous perdez, et même si vous n'avez pas un e-commerce transactionnel, ça peut être juste le mail de confirmation d'inscription à la newsletter, si vous proposez une newsletter sur votre site. Donc les mails transactionnels, ce sont tous les mails qui sont envoyés automatiquement par votre serveur pour confirmer une action. Donc confirmer que vous êtes bien inscrit à la newsletter, confirmer que vous avez bien créé le compte, confirmer que la commande a bien été reçue. C'est envoyé automatiquement. Ça veut dire qu'aujourd'hui déjà, vous envoyez des mails, votre serveur envoie des mails, et que vous ratez plein d'occasions d'obtenir des retours supplémentaires de ces emails. C'est d'autant plus dommage que de tous les mails que vous envoyez, c'est ceux qui ont le meilleur taux d'ouverture. Là où j'annonçais 25%, on est sur 50 à 75% de taux d'ouverture. Par contre, le taux de clic, en général, il est proche de zéro parce que rien n'est fait pour inciter à cliquer. Et c'est un peu là où je veux en venir. Si on prend l'exemple de Back Market, c'est le... Romain vient d'acheter un téléphone sur Back Market qui propose des produits reconditionnés, essentiellement des téléphones et un peu d'informatique. La confirmation de sa commande, du détail de sa commande, il est là, il est en bas. Mais ça commence par dire, ouais, alors c'est un ton humoristique, mais super, on te confirme, t'as bien acheté ton téléphone, voilà ton numéro de commande. Et puis paf, on lui demande, il est content, il vient d'acheter, et si tu partageais ta joie, viens, partage-le sur Facebook. Et là, on passe de 0% de taux de conversion, moi je fais pareil, on est à plus de 5. Taux de clic largement supérieur à ça. On en profite, dans tous les mails transactionnels, de rappeler qu'il peut accéder à son espace perso. On en profite pour lui dire comment est-ce qu'il peut contacter le SAV s'il a un problème. Ça, c'est rassurant, même s'ils n'en ont pas besoin, ça fait toujours des points en plus. Et s'ils en ont besoin, ça fera du stress en moins. Autre exemple, là on est sur un mail transactionnel plus classique. Sauf que ils ont. Là, vous avez vu, on se retrouve avec le format newsletter. Ça, c'est l'intégralité du mail transactionnel. Un peu de personnalisation, ça ne mange pas de pain. Voilà, des détails techniques de la commande, des éléments de la commande, comment suivre sa commande. Et là, il y a un bouton qui invite. Finalement, on a reçu un mail, on ne l'a peut-être pas reçu tout de suite. Et là, l'invitation à l'action, c'est bien voir sur le site où en est ta commande. Donc, finalement, on ramène l'internaute sur le site. L'intérêt de ramener l'internaute sur le site, c'est tout simple, hein. Si vous avez des bandeaux publicitaires qui lui annoncent une nouvelle promo ou qui lui annoncent des primes de fidélité ou les nouveaux produits qui sont sortis, vous avez une chance de lui revendre quelque chose. Et évidemment, tant qu'à faire, en bas, il y a un petit bandeau avec tous les liens sociaux qui permettent de suivre l'actualité du site ou en savoir plus. On peut se poser la question, est-ce que ces éléments en bas sont cliqués ou pas ? La réponse est j'en sais rien. Mais par contre, vous avez le moyen de le savoir. Puisqu'on a vu que dans les prérequis, vous avez mis le marquage statistique. Donc vous savez non seulement évidemment combien de mails ont été ouverts, mais vous savez aussi quel lien, si votre plateforme de routage et de statistique est bien faite, vous savez quel lien exactement a été cliqué. J'ai travaillé récemment sur un mailing d'un client et la question c'était. Et où est-ce que je peux gagner du temps dans ce mailing UP, qui est un mailing dédié, mais avec beaucoup de contenu. Moi, mon réflexe, c'est de dire, mailing dédié, il ne faut pas s'embêter, on se concentre sur un message, et puis le reste, si vous voulez gagner du temps, vous ne le mettez pas. Mais avant de tirer cette conclusion, on a regardé les statistiques. Et finalement, toute la partie inférieure de ce mailing dédié était cliquée également. Donc finalement, les statistiques, on peut mettre toute la théorie qu'on veut, la seule chose qui est vraie, ce sont les résultats, la performance et les statistiques. Sur Internet, on a un grand avantage, c'est qu'on peut mesurer facilement la performance de ce qu'on fait, que ce soit sur le web ou dans les emailing. Donc, la théorie, c'est bien. La meilleure chose pour savoir ce qui marche, c'est simplement d'essayer de faire des variations et de voir qu'est-ce qui performe le mieux entre les deux. Si je reste sur le mail transactionnel, un autre exemple de mail transactionnel, c'est une plateforme de cashback, c'est-à-dire qui reverse du crédit aux internautes qui font des achats par leur plateforme, sous forme de cagnotte. Et là, on va envoyer un mail pour dire « Ok, votre crédit, il a été validé, et puis c'est fini. » Et puis du coup, on se retrouve, il ne se passe rien. Là, on est invité à consulter ses gains, on risque de cliquer dessus, parce que un, on veut voir qu'est-ce qu'on a gagné d'autre. Et du coup, on se retrouve de nouveau sur le site. Le site va pouvoir de nouveau nous inviter à faire d'autres actions, nous dire que tiens, en ce moment, le cagnotage sur tel autre site, il a été doublé, il est en mode promotionnel. Et du coup, on va de nouveau reconvertir l'internaute qui a déjà fait un acte de conversion. Il vient de recevoir un avis lui disant qu'il a reçu du crédit. C'est quand même le meilleur moment où il risque d'être content du service. Donc c'est le bon moment pour lui demander d'aller donner un avis sur une plateforme d'avis. Tout ça pour donner des idées de comment est-ce que vous pouvez transformer vos mails transactionnels qui sont envoyés systématiquement. Et je rappelle, un mail transactionnel, ce n'est pas que du e-commerce, c'est tous les mails de confirmation, y compris le mail de confirmation de newsletter. Ils sont, ceux qui sont livrés en standard sont forcément pas beaux et aucune invitation à l'action. Si je résume, les trois approches qu'on retrouve, c'est les newsletters, c'est plutôt pour les gros volumes d'envoi, avec des exceptions si vous attendez, vous êtes capable de tirer des revenus de votre base installée avec seulement une ou deux transformations. Vous avez le mailing dédié, c'est vraiment l'outil magique. Avec ça, vous avez envie de pousser, vous avez une fin de stock, vous avez un événement qui ne marche pas trop bien, vous n'avez pas assez d'inscriptions. Vous renvoyez un mailing, vous réfléchissez à quel est le bénéfice pour l'internaute. Et vous n'oubliez pas de travailler la page de destination. Et vous avez rapidement, très rapidement des résultats. Et quand je dis rapidement, c'est dans la journée. Et enfin, là, c'est la chose à emmener. Et quand vous rentrez à votre bureau, c'est de regarder comment sont vos mails transactionnels. Peut-être que vous vous rendrez compte que certains ne marchent même plus. Faites le parcours de l'internaute. Inscrivez-vous sur votre site. Inscrivez-vous à votre newsletter et regardez ce que vous recevez et posez-vous la question, qu'est-ce que je peux faire pour capitaliser de cet email qui de toute façon est envoyé, qu'est-ce que je peux faire pour en tirer un second bénéfice de ce mail-là. Et rien qu'avec ça, vous allez pouvoir gagner des actions, des retours en rapidement.